Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben si j'y suis avec Eric Hobsbawm, aux armes, historien, deux siècles d'histoire de la Révolution française. Eric Hobsbawm, je suis très très content de vous retrouver parce qu'on s'était vu au moment de la publication de L'âge des extrêmes et qui a eu un succès considérable et mérité 37 langues, un livre traduit en 37 langues.
Oui, ça continue. Il se prépare une tradition en langue vietnamite.
Ah
oui. Et encore une seconde édition en arabe.
Oui. Formidable. Donc ça, c'était sur le XXe siècle. Vous êtes aussi un excellent spécialiste, je suppose que le mot vous agace de dire spécialiste, mais enfin un bon observateur aussi du XIXe siècle. Et là, ce qui nous donne, Eric Hobsbawm, ce qui nous donne l'occasion de nous retrouver, c'est un bouquin donc, qui sort aux éditions de La Découverte, que vous avez intitulé « Aux armes, historien », et qui retrace deux siècles d'histoire de la Révolution française. Alors qu'on le verra, vous n'êtes pas un spécialiste de la Révolution française, mais à travers votre travail, vous avez mesuré les conséquences, on peut dire, au 19e et au 20e siècle, ce que vous venez de faire d'ailleurs, de la Révolution française. Et il s'agit de trois textes, enfin de trois conférences que vous aviez préparées, que vous avez données au moment du bicentenaire de la Révolution. Au moment du bicentenaire de la Révolution française. Et alors, pour les gens de ma génération, mon enfance, c'était dans les années 50. L'idée qu'on avait de la Révolution française, c'est que c'était un événement tragique, mais un événement positif. C'est-à-dire que c'était une révolution bourgeoise, mais que tout ce que nous étions, nous le devions à cette révolution. Ça, c'était un premier aspect. Puis il y en avait un second, pour ceux qui étaient dans un courant progressiste, c'était de dire, bon, voilà, les bourgeois ont pris le pouvoir par rapport aux aristocrates, et bien nous, maintenant, le peuple va prendre le pouvoir par rapport à la bourgeoisie. Ça, c'était une vision qu'on avait dans les années 50-60. Oui, et puis arrivent les années 70, et là, on va avoir une autre lecture de cette Révolution française, qui va être de dire, si on pouvait s'en passer, ce serait pas plus mal. On va commencer à dire, c'est la Révolution, ça mène au goulag. Il y a un chemin qui va tout droit de la Révolution française en l'occurrence, au goulag. Et ce sera, je résume et je caricature outrageusement, un peu le parcours de ceux que vous considérez comme des révisionnistes, dont François Furet, l'éminent historien et votre éminent confrère François Furet, qui sera le penseur du bicentenaire de 1989. Et on se souvient comment ce bicentenaire, qui avait été confié à un décorateur des Galeries Lafayette, qui s'appelle Monsieur Goud, avait fait de cette commémoration quelque chose d'assez édulcoré, de folklorisé, et qui était comme qui nous disait que c'était une page qu'il fallait que nous avions à tourner. Et c'est ça qui vous a agacé.
Oui, c'est ça. En effet.
On peut dire que c'est ça qui vous a agacé.
On ne peut pas se passer de la Révolution française, on ne peut pas se passer des grands événements d'une histoire nationale, même si on ne les aime pas. On ne peut pas se passer, par exemple, de la Révolution anglaise, de Cromwell. Elle y est, toujours, dans un certain sens. Et la Révolution de 1688. Il me semble que le débat, discuter la Révolution française, est une chose, mais ça ne doit pas se faire en des termes de politique actuelle. Et c'est ça qui s'est fait. Même Furet, qui après tout était très intelligent, n'a pas cru que la Révolution française ne comptait pour rien dans l'histoire de France. Hein. Mais pour des raisons politiques.
Du moment.
Du moment. Politique du moment. Il a voulu la marginaliser. Hein. Et à mon avis, c'est là la raison de toutes ces erreurs du bicentenaire. Avec la Révolution française, c'est la même chose qu'il faut éviter qu'avec les Lumières. C'est-à-dire, il faut les discuter dans leur contexte historique.